Bonjour, bonjour, Yves au micro pour une nouvelle émission de 24 secondes qui va quitter cette ère un peu tourmentée pour vous annoncer ou vous rappeler que 24 secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent depuis largement plus d'un siècle maintenant. Ce jour, dans 24 secondes, eh bien nous allons consacrer 30 malheureuses minutes à un des plus grands réalisateurs de cinéma italien, le dénommé Marco Bellocchio, qui aura tourné son premier film en 1961, j'y reviens, et qui est toujours là. Donc c'est assez incroyable comme carrière. Plus de 60 ans de carrière relativement soutenue pour Marco Bellocchio, né à Piacenza, près de Milan, le 9 novembre 1939, qui fait des études de lettres, de philosophie, et ensuite suit des cours d'art dramatique à Milan avant de fréquenter le fameux, alors pardon pour mon accent italien, hein, Centro Sperimentale di Cinematografia de Rome, c'est-à-dire l'école de cinéma romaine bien connue, de laquelle sont sortis nombre des grands collaborateurs du cinéma italien. Ensuite, eh bien, il débute dans les années 60 avec deux courts-métrages, en 1961, donc, je l'ai déjà dit. Et son premier long-métrage date de 1965. Et dès 1965, alors, il y a un mauvais jeu de mots derrière, c'est un coup de poing, puisque Pugni, I Pugni in Tasca, les poings dans les poches, avec Lou Castel dans le rôle principal, eh bien, est un film extrêmement difficile, mais d'une très très grande qualité, et qui fait remarquer Marco Bellocchio, auquel certains, bienvenue, prédisent une carrière relativement brillante. On va écouter, on en redira deux mots après, un extrait de la bande originale de ce film. Elle est signée d'un jeune compositeur à l'époque qui lui aussi était promis à une carrière extrêmement brillante, Ennio Morricone soi-même, dans 24 notes secondes. Eh bien, de fait, il promettait, le jeune Ennio Morricone, un extrait de la bande originale des Poings dans les Poches, un film de Marco Bellocchio tourné dans sa ville natale à Piacenza. Un film, alors, lourd de chez lourd. La mère est aveugle, deux de ses enfants sont épileptiques et l'un d'entre eux est en plus arriéré mental. Quant à la fille, eh bien, elle pratique l'inceste avec un de ses frères et le personnage principal, Alessandro, qui est un des deux épileptiques, finit par tuer sa mère, puis son frère, et par séduire à nouveau sa sœur. Bref, du lourd dans ce film de Marco Bellocchio, mais aussi un ton très très nouveau dans le cinéma italien de l'époque. Marco Bellocchio a 26 ans et en parallèle au Poing dans les Poches, eh bien, on verra la même année Prima della Rivoluzione de Bertuccelli, de Bernardo Bertuccelli, qui après s'épuisera dans des productions académiques, mais qui dans les années 60, eh bien, était à la pointe de ces combats révolutionnaires. Le mot paraît un peu bizarre au 21e siècle, mais les combats révolutionnaires qui, je simplifie, vont mener à mai 68 et à tout ce genre de choses. Ensuite, eh bien, Marco Bellocchio tournera un film intitulé « La Chine est proche », dont les tentations maoïstes, hélas, ne sont pas éloignées. Et puis en 1972, il pourra tourner son second film, on va dire, de fiction, un film dans lequel on va retrouver Lou Castel, un film intitulé « Au nom du Père »,« Nel nome del Padre ». Là encore, je vous en dirai quelques mots, mais là encore, on va donner priorité à la musique. Elle est signée de Nicolas Piovani dans 24 notes secondes. La magnifique partition de Nicolas Piovani pour un film de Marco Bellocchio tourné en 1972, Au nom du Père. Et alors le Père, c'est plutôt le Père de l'Église, puisque le film se passe dans un collège catholique à la fin des années 50, où ma foi, la vie n'est pas facile, ni pour les élèves, ni pour les professeurs et autres encadrants dans les rôles principaux. On retrouve des acteurs, hélas, aujourd'hui un peu oubliés, comme Yves Benetton, Lou Castel, déjà cité, ou Laura Betti, qui fut une sorte d'égérie de Pier Paolo Pasolini, encore un nom avec Bertolucci déjà signalé, qu'on ne pouvait pas ne pas citer à propos du cinéma italien des années 70 et de ses volontés, comment dire, réformatrices, pour ne pas dire révolutionnaires. Révolutionnaire, réformateur, et bien Marco Bellocchio le reste dans sa filmographie des années suivantes. On pourra citer en 1976, une satire antimilitariste assez violente, La Marche Triomphale. En 1980, je ne cite pas tout, hein, Le Saut dans le Vide, dans lequel on retrouvait Anouk Aimée et Michel Piccoli, la première et le second formant une sorte de couple frère-sœur assez malsain, alors pas jusqu'à l'inceste, mais très très trouble. On verra aussi Marco Bellocchio en 1984 adapter la fameuse pièce de Pirandello, Henri IV, hein, Henri IV, le roi fou. On verra aussi un succès de scandale avec une réadaptation du Diable au corps de Raymond Radiquet en 1986, où une fellation avait provoqué quelques remous. Ah, c'est pas très joli ça, une fellation qui avait provoqué quelques remous, mais enfin on va quand même le garder, ou on le coupera en montage, on ne sait pas trop. Et on va plutôt écouter un extrait de la bande originale d'un film tourné en 1991. Alors on reste un peu dans le même sujet, puisque le film s'appelle en français « Autour du désir », en anglais « La Condanna ». À ma connaissance, c'est un des seuls premiers rôles de Claire Neubout, une actrice qui dans les années 80-90 connut un petit, trop petit succès, hélas. À ses côtés, il y a Vittorio Mezzogiorno, dont le nom peut-être ne vous sera pas connu, mais qui est une très très grande star de l'autre côté des Alpes, comme on dit en Italie. La musique de ce film, eh bien, je ne le sais pas. Je vous le dirai après en avoir écouté un extrait. Honte à moi, on écoute tout de suite Autour du désir dans 24 notes secondes. Un extrait de la bande originale signée, je l'ai retrouvé, Carlo de La Condanna, Autour du désir, un film de 1991, une histoire, à vrai dire, assez ébouriffante d'une jeune femme qui se fait enfermer dans un musée, en l'espèce la Villa Farnese, à Rome, le Palazzo Farnese à Rome, où Sophie Rodema pareil, il y a aussi l'ambassade de France en Italie. Un film très très peu connu de Marco Bellocchio. D'ailleurs, il faut bien le reconnaître, le cinéaste est plus connu en France et plus célébré et apprécié en France que dans son pays d'origine, l'Italie. Ma foi, ce n'est pas le seul. On va écouter tout de suite un nouvel extrait d'une nouvelle adaptation à l'écran d'un roman, mais d'une pièce, en l'espèce une pièce fameuse d'Heinrich von Kleist. Ça s'appelle Le Prince de Hombourg. Et Marco Bellocchio transféra donc à l'écran cette pièce en 1997. La musique, eh ben, elle est encore de Carlo Crivelli, cette fois, je ne l'oublierai pas. Et on l'écoute dans 24 notes secondes. belle partition de Carlo Crivelli pour Le Prince de Hombourg, un film de Marco Bellocchio, tourné en 1997. Marco Bellocchio qui, quand on regarde sa filmographie, relativement abondante, même si pas surnuméraire pour 60 ans de carrière, eh bien réussit tous les deux ans, en gros, à sortir un film. Après Le Prince de Hombourg, on verra en 1999 La Nourrice, une adaptation à nouveau de Pirandello, mais cette fois d'une de ses fameuses nouvelles pour une année, en fait. Il n'y en a qu'un peu plus de 300. Et oui, je les ai lus. Mais une adaptation qui déroutera un peu. Et en fait, Marco Bellocchio reviendra sur le devant de la scène en 2003 pour un film très, très réussi sur un sujet très, très difficile. En l'espèce, l'enlèvement à Rome en 1978, la séquestration puis l'exécution d'Aldo Moro, qui était le président de la démocratie chrétienne, un épisode traumatique de l'histoire politique italienne, qui l'est encore 40 ans plus tard, qui reste encore dans toutes les mémoires. Et en 2003, donc, dans un film intitulé « Buongiorno, notte », que pour une fois on n'aura pas traduit en français, ma foi, vous l'avez, j'espère, traduit en français par vous-même, eh bien, on verra l'histoire racontée du point de vue d'une des jeunes terroristes engagées dans la lutte armée. Et ce n'est pas un hasard, puisque le film s'inspire d'un roman intitulé « Le prisonnier ». Le prisonnier, c'était évidemment Aldo Moro. Anna Laura Blaghetti, qui, je pense, avait joué un rôle dans l'enlèvement d'Aldo Moro, et qui raconte l'histoire de son point de vue, ce qui fait qu'on voit assez peu Aldo Moro en tant que tel, mais on voit évidemment les rapports complexes qui se tissent petit à petit entre l'otage et ses séquestreurs. Je ne sais pas si le mot convient, puisqu'en fait, l'enlèvement dura très très longtemps avant que finalement les terroristes, on va les appeler comme ça, se résolvent, et on va dire comme ça, à assassiner donc Aldo Moro, qu'on retrouva dans le coffre arrière d'une voiture. On va écouter un extrait de la bande originale de ce film. Alors, elle est co-signée de Riccardo Gianni, de Pink Floyd et de Franz Schubert. Je vous laisse apprécier, je dirais, l'éclectisme, mais on va écouter évidemment Les Flamants Roses, et vous allez reconnaître The Great Gig in the Sky dans 24 heures secondes. Thank you. Mon Dieu, que ça fait du bien d'entendre des choses comme ça. The Great Gig in the Sky des Flamants Roses, c'était évidemment un extrait de l'album The Dark Side of the Moon, peut-être l'un des plus grands albums pop de tous les temps, enfin, chacun son avis. Et surtout un extrait de la bande originale de Buongiorno, noté un film de Marco Bellocchio consacré, alors là, grand écart à l'assassinat d'Aldo Moro, un film sorti en 2000 et quelques, je vais retrouver ça, 2003, excusez-moi, qui connut un gros succès. Et je vous l'ai dit, l'assassinat d'Aldo Moro, c'est un des épisodes traumatiques les plus connus de la politique italienne. Et on va se quitter là encore avec un film, l'un des plus gros succès de Marco Bellocchio, qu'il a remis en selle s'il en avait besoin. Un film qui est aussi une adaptation de la politique italienne. En 2009, Vincere, je ne sais plus trop, et raconte la vie de Mussolini, ou plutôt de la vie d'une des maîtresses de Mussolini, en l'espèce la dénommée Ida Dalzer, qu'il avait rencontrée en 1907 à Trente, donc bien avant qu'il devienne le leader fasciste bien connu, et qui aura vendu tous ses biens, lui aura consacré toute son existence pour, évidemment, qu'il l'abandonne avec l'enfant illégitime qu'elle lui avait fait. Le film est de fait très très acide contre le Führer italien, mais c'est un peu comme ça qu'on le qualifiait, et il raconte par ce biais un peu tourmenté, eh bien toute l'histoire de l'Italie jusqu'au début, dans mon souvenir, de la Seconde Guerre mondiale. Et le Vincere en question, eh bien, c'est une allusion au discours que Benito Mussolini, prononce le 10 juin 1940 pour déclarer la guerre à la France et à la Grande-Bretagne. On sait ce qu'il en advint 4 ans plus tard. La bande originale de ce film, elle est aussi signée de Carlo Crivelli. Allez, on fera une émission spéciale sur Carlo Crivelli un de ces jours, et je vous laisse en écouter un large extrait dans 24 notes secondes. Thank you. Et voilà, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt. Arrivederci, ciao.